Propriété publique, propriété sociale, propriété temporaire. Pour toutes ces raisons, il est essentiel de se réinterroger sur les acquis et les limites des sociétés social-démocrates. Les institutions social-démocrates, qu'il s'agisse du système légal, et notamment du droit des entreprises et du droit du travail, du système d'assurance sociale, du système éducatif ou du système fiscal, ont souvent été mises en place dans l'urgence de l'après-guerre, ou parfois de la crise des années 1930, et n'ont jamais été véritablement pensées comme un tout cohérent. En particulier, chaque pays s'est le plus souvent appuyé sur sa propre expérience, et assez peu sur celle des autres. Les phénomènes de diffusion et d'apprentissage mutuel ont parfois été importants, par exemple concernant l'envol des taux supérieurs de l'impôt progressif sur les revenus et les successions, mais ils ont été beaucoup plus limités pour les politiques sociales et le système légal. Nous allons nous intéresser tout d'abord à la question du régime de propriété. Pour simplifier, on peut dire qu'il existe trois façons de dépasser le système fondé sur la propriété privée des entreprises et la toute-puissance des actionnaires. Il s'agit d'une part de la propriété publique, l'État central, une collectivité locale, région, département, commune, etc., ou bien une agence sous contrôle de la puissance publique, deviennent les propriétaires d'une entreprise en lieu et place des actionnaires privés. Il s'agit d'autre part de la propriété sociale. Les salariés participent à la direction des entreprises et partagent le pouvoir avec les actionnaires privés, et le cas échéant public, éventuellement en les en évinçant complètement. Il s'agit enfin de ce que je propose d'appeler la propriété temporaire. Les propriétaires privés les plus fortunés doivent rendre chaque année à la collectivité une partie de ce qu'ils possèdent, afin de permettre la circulation des biens et une moins forte concentration de la propriété privée et du pouvoir économique. Cela peut, par exemple, prendre la forme d'un impôt progressif sur la propriété permettant de financer une dotation universelle en capital versée à chaque jeune adulte, ainsi que nous l'analyserons plus loin. Pour résumer, la propriété publique équilibre la puissance du propriétaire privé par celle de l'État. La propriété sociale vise à partager le pouvoir et le contrôle des moyens de production au niveau des entreprises. La propriété temporaire fait circuler la propriété privée et empêche la persistance de détentions trop importantes. Tous les éléments historiques dont nous disposons aujourd'hui suggèrent que ces trois formes de dépassement de la propriété privée sont complémentaires les unes des autres. Autrement dit, c'est en ayant recours à un mélange de propriété publique, de propriété sociale et de propriété temporaire qu'il est possible de dépasser réellement et durablement le capitalisme. Les sociétés communistes de type soviétique ont tenté de s'appuyer presque uniquement sur la propriété publique, et en l'occurrence sur la propriété étatique hyper-centralisée de la quasi-totalité des entreprises et du capital immobilier, ce qui les a conduites à un cuisant échec. Les sociétés social-démocrates ont développé des approches plus équilibrées, en s'appuyant d'une certaine façon sur les trois registres, mais à chaque fois de manière insuffisamment ambitieuse et systématique, notamment pour ce qui concerne la propriété sociale et la propriété temporaire. Trop souvent, l'accent a été mis sur les nationalisations et la propriété étatique, avant que cette notion soit finalement abandonnée après la chute du communisme, sans être véritablement remplacée par un programme alternatif digne de ce nom, si bien que la question même du dépassement de la propriété privée a souvent été abandonnée presque entièrement par les sociaux-démocrates. De façon générale, il faut insister sur le fait que chacun de ces trois dépassements de la propriété privée peut prendre des formes multiples qui constituent autant de champs inépuisables d'expérimentation historique, sociale et politique. Dans le cadre de cette enquête, il ne s'agit en aucune façon de clore le débat, mais au contraire de contribuer à l'ouvrir dans toute sa complexité. Par exemple, il existe de multiples formes de propriété publique, plus ou moins démocratique et participative, en fonction notamment de la façon dont on organise la gouvernance des entreprises publiques, par exemple au travers de la représentation des usagers, des citoyens et des différentes parties prenantes au sein des conseils de direction ou de surveillance, ou encore du mode de nomination et de contrôle des administrateurs par les structures étatiques et les collectivités publiques concernées. La propriété publique peut parfaitement se justifier et a souvent démontré sa supériorité sur la propriété privée dans de nombreux secteurs, par exemple dans les transports, la santé ou l'éducation, à la condition toutefois que la gouvernance des entreprises et des administrations publiques concernées favorise la transparence et la réactivité aux besoins des citoyens et des usagers. Concernant la propriété temporaire et la dotation universelle en capital, elle peut notamment impliquer la mise en place de diverses formes d'impôts progressifs sur la propriété, qui ont été insuffisamment expérimentées jusqu'ici et sur lesquelles je reviendrai de façon détaillée. Enfin, la propriété sociale et le partage du pouvoir entre salariés et actionnaires peuvent également être organisés de différentes façons, dont certaines sont en place dans plusieurs pays européens depuis les années 1950. Nous allons commencer par là. Partager le pouvoir, instituer la propriété sociale, une histoire inachevée. L'Allemagne et la Suède, et plus généralement les sociétés social-démocrates d'Europe germanique et nordique, notamment en Autriche, au Danemark et en Norvège, sont les pays qui ont été le plus loin dans la mise en place de la cogestion, qui est une forme particulière de propriété sociale des entreprises et de partage du pouvoir institutionnalisé entre salariés et actionnaires. Précisons d'emblée que la cogestion n'est pas une fin en soi et peut être dépassée. Encore faut-il partir de cette expérience historique importante pour mieux comprendre les suites possibles. Le cas allemand est particulièrement intéressant, compte tenu notamment de l'importance du modèle social et industriel allemand au sein de la social-démocratie européenne. La loi de 1951 introduisit pour la première fois l'obligation pour les grandes entreprises industrielles de l'acier et du charbon de réserver la moitié des sièges et des droits de vote dans les conseils d'administration pour les représentants des salariés, élus généralement sur des listes syndicales. Concrètement, cela signifie que les administrateurs salariés peuvent voter sur tous les choix stratégiques de l'entreprise, à commencer par la nomination et la révocation de l'équipe dirigeante ainsi que l'approbation des comptes, et ont accès aux mêmes documents que les administrateurs choisis par les actionnaires. Puis, la loi de 1952 institua pour l'ensemble des grandes entreprises, tous secteurs confondus, or, acier et charbon, l'obligation d'avoir un tiers des sièges pour les représentants des salariés. Ces deux textes, adoptés sous le chancelier chrétien-démocrate Konrad Adenauer, 1949-1963, contenaient également des dispositions étendues sur le rôle des comités d'entreprise et des délégués syndicaux dans les négociations collectives, en particulier concernant les questions salariales et l'organisation du travail et de la formation professionnelle. Ces textes de loi furent ensuite approfondis avec l'arrivée des sociaux-démocrates au pouvoir à Bonn de 1969 à 1982, sous Willy Brandt puis Helmut Schmidt. Les débats aboutirent au vote de la grande loi de 1976 sur la cogestion, inchangée dans ses grandes lignes jusqu'à nos jours, et qui généralisa à l'ensemble des entreprises de plus de 2000 salariés l'obligation de réserver la moitié des sièges et des droits de vote pour les représentants des salariés, et un tiers dans les entreprises comprenant entre 500 et 2000 salariés. Ces sièges et ces droits de vote sont attribués aux représentants des salariés en tant que tels, indépendamment de toute participation au capital. En présence d'actionnariat salarié, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'un fonds de pension ou d'une autre structure collective, cela peut donner lieu à des sièges supplémentaires au sein des conseils d'administration et possiblement faire basculer la structure de la majorité. Il en va de même en cas d'un actionnariat public minoritaire. Par exemple, le Land de Basse-Saxe détient en 2019 13% du capital de Volkswagen et les statuts de l'entreprise lui garantissent 20% des droits de vote. Il est important d'insister sur le fait que ce système, qui a valeur légale et obligatoire depuis les lois de 1951-1952 et de 1976, est avant tout la conséquence de la très forte mobilisation des syndicats allemands depuis la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ainsi que d'une trajectoire historique spécifique. Si ces règles sont aujourd'hui largement acceptées en Allemagne, y compris par les employeurs, il ne faut pas oublier qu'elles ont été vivement combattues en leur temps par les actionnaires et propriétaires allemands, et qu'elles ne leur ont été imposées qu'à l'issue d'intenses luttes sociales et politiques menées dans des circonstances historiques où les rapports de force entre salariés et actionnaires étaient un peu moins déséquilibrés que d'ordinaire. C'est en particulier dans le contexte très particulier et par moments quasiment insurrectionnel de 1918-1922, à l'issue de la Première Guerre mondiale, que le mouvement syndical allemand réussit pour la première fois à négocier avec les employeurs de nouveaux droits pour les comités d'entreprise, les délégués syndicaux et la fixation des salaires, dispositions qui furent ensuite reprises dans la loi de 1922 sur les négociations collectives et les représentants des salariés. C'est également sous la pression du mouvement syndical et de sociaux-démocrates que la Constitution de Weimar de 1919 institua une conception beaucoup plus sociale et instrumentale de la propriété que tous les textes constitutionnels précédents. En particulier, la Constitution de 1919 précise que la loi fixe les conditions d'exercice et les limites du droit de propriété, qui n'est plus, dès lors, considéré comme un droit naturel et sacré. Le texte envisage explicitement la possibilité d'expropriation et de nationalisation, si le bien de la communauté l'exige, suivant des termes fixés par la loi. Cette dernière détermine également le régime foncier et la répartition des sols en fonction d'objectifs sociaux explicites. La loi fondamentale allemande de 1949 reprendra des dispositions similaires, en précisant que le droit de propriété n'est légitime que dans la mesure où il contribue au bien-être général de la collectivité. Le texte mentionne explicitement la socialisation des moyens de production, dans des termes qui ouvrent la possibilité de mesures telles que la cogestion. Même si certaines formulations pourraient évidemment être discutées et améliorées, il s'agit là d'une innovation juridique et constitutionnelle radicale. De façon quasi contemporaine à la Constitution allemande de 1919, les constitutions mexicaines de 1910 et 1917 ouvrirent également la voie à des redistributions de la propriété, et en particulier à une vaste réforme agraire, avec toutefois moins de succès que la cogestion à l'allemande, ce qui montre au passage qu'une constitution ouverte à la propriété sociale n'est pas suffisante. Il faut également, et surtout, que les forces sociales et politiques en présence parviennent à se saisir de ces opportunités nouvelles. Dans de nombreux pays, les débats sur le partage du pouvoir dans les entreprises, et plus généralement sur la redéfinition du régime de propriété et la redistribution des biens, se sont en effet souvent heurtés, et se heurtent toujours, à des arguments formulés en termes d'inconstitutionnalité et de violation supposée du droit de propriété, envisagé comme absolu et sans limite. Après une suspension de 1933 à 1945, les droits syndicaux prévus par la loi allemande de 1922 furent réactivés à la chute du nazisme et pendant la période d'occupation alliée. Dans le contexte de la reconstruction, les syndicats, de nouveau en position de force, négocièrent entre 1945 et 1951 de nouveaux pouvoirs avec les employeurs des secteurs sidérurgiques et énergétiques, et en particulier une participation paritaire aux organes de direction des entreprises. Ces nouveaux droits, obtenus par la négociation et les luttes, furent simplement retranscrits dans la loi de 1951. De ce point de vue, la loi de 1952 fut ressentie par les fédérations syndicales allemandes, en particulier la DGB, Confédération allemande des syndicats, comme une déception, voire un retour en arrière. La participation des salariés dans les conseils d'administration, or, acier et charbon, était limitée à un tiers, soit en pratique à peine 2 ou 3 sièges, suivant la taille des conseils, alors que les syndicats militaient pour la généralisation du principe d'une représentation paritaire des salariés et des actionnaires. La loi prévoyait en outre des élections séparées pour les représentants des salariés manuels et non manuels, ce qui, aux yeux des syndicats, revenait à diviser et affaiblir la voix des salariés. Réussite et limite de la cogestion à l'allemande. De façon générale, il faut également souligner que l'une des principales limitations de la cogestion à l'allemande est que la parité en l'absence d'un actionnariat salarié ou public supplémentaire, est en partie un leurre. En cas d'égalité des voix, ce sont en effet les administrateurs choisis par les actionnaires qui disposent de la voix décisive, par exemple pour nommer la direction de l'entreprise ou pour choisir sa stratégie d'investissement ou de recrutement. Cette voix décisive est exercée par le président du conseil, qui est toujours un représentant des actionnaires. Un autre point essentiel à prendre en compte est que la plupart des entreprises allemandes sont gouvernées non pas par un conseil d'administration unique, comme cela est le cas dans la plupart des pays, mais par une structure bicéphale composée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Les représentants des salariés disposent alors de la moitié des sièges au conseil de surveillance, mais compte tenu de la voix prépondérante des actionnaires, ces derniers peuvent nommer tous les membres qu'ils souhaitent au directoire, qui est la structure de direction opérationnelle de la société. L'une des revendications récurrentes des syndicats allemands, toujours insatisfaites à ce jour, est que la parité s'applique également au directoire, c'est-à-dire que les représentants des salariés puissent choisir la moitié de l'équipe dirigeante et pas uniquement le directeur du personnel et des ressources humaines, poste souvent occupé par un représentant syndical dans les grandes entreprises allemandes, ce qui constitue déjà une différence significative avec les pratiques de la plupart des autres pays. Ces débats montrent que la propriété sociale et la cogestion, telles qu'elles ont été expérimentées à ce jour, ne doivent pas être conçues comme des solutions fermées. Il s'agit au contraire d'une histoire en cours et largement inachevée, faute d'avoir été suffisamment approfondie et prolongée. Dans le cas de la Suède, la loi de 1974, étendue en 1980 et 1987, prévoit un tiers des sièges au conseil d'administration de toutes les entreprises de plus de 25 salariés. Les entreprises suédoises étant gouvernées par un conseil d'administration unique, cette représentation, certes minoritaire, peut parfois permettre un contrôle opérationnel plus poussé que la parité allemande dans les conseils de surveillance, qui sont plus éloignés de la gestion effective de l'entreprise que ne le sont les conseils d'administration suédois. Ces règles s'appliquent en outre à de beaucoup plus petites entreprises que dans le cas allemand, qui concernent uniquement les entreprises au-delà de 500 salariés, ce qui est extrêmement restrictif. Au Danemark et en Norvège, les salariés ont également droit à un tiers des sièges dans les entreprises de plus de 35 et 50 salariés. En Autriche, la proportion est aussi d'un tiers, mais la règle s'applique uniquement au-delà de 300 salariés, ce qui restreint considérablement le champ d'application, presque autant qu'en Allemagne. Quelles que soient les limites de la cogestion germanique et nordique, telle qu'elle s'est appliquée depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les éléments disponibles suggèrent que ces nouvelles règles ont permis un certain rééquilibrage du pouvoir entre salariés et actionnaires et un développement économique et social plus harmonieux et au final plus efficace au sein des entreprises concernées, tout du moins par comparaison à la situation où les salariés n'ont aucune représentation au conseil d'administration. En particulier, le fait que les syndicats participent à la définition de la stratégie à long terme des entreprises et disposent à cette fin de toutes les informations et tous les documents nécessaires semble permettre une plus grande implication des salariés et une plus forte productivité d'ensemble. La présence de salariés au sein des conseils d'administration a également permis de limiter l'inégalité des salaires, et en particulier de mieux contrôler la croissance parfois vertigineuse des rémunérations des cadres dirigeants observées dans les autres pays. Concrètement, les dirigeants des entreprises allemandes, suédoises ou danoises ont dû se contenter depuis les années 1980-1990 de hausses de rémunération sensiblement moins mirobolantes que leurs homologues anglo-saxons, et cela ne semble pas avoir nui à la productivité et à la compétitivité des entreprises concernées, bien au contraire. La critique selon laquelle la présence minoritaire des salariés au conseil d'administration les conduirait à cautionner les décisions unilatérales des actionnaires et nuirait à la combativité syndicale ne semble pas davantage justifiée. Le système de cogestion doit certes être amélioré et dépassé. Il n'en reste pas moins que tous les pays qui ont introduit des sièges pour les salariés au conseil d'administration ont également mis en place des systèmes de négociation collective permettant aux salariés d'être représentés au sein de comités d'entreprise, de délégations syndicales ou d'autres structures uniquement composées de salariés est chargé de négocier directement les conditions d'emploi et de salaire avec les directions des entreprises, que ces dernières aient été nommées ou non, avec l'aval des administrateurs salariés et sans que ceux-ci empêchent cela. En Suède, ce sont avant tout ces organes de négociation capital-travail qui ont été investis par les syndicats après l'arrivée des sociaux-démocrates au pouvoir à partir des années 1930 et 1940. Des institutions du même type ont d'ailleurs permis de développer un véritable statut salarial, avec notamment la fixation d'un revenu garanti, en général sous forme d'un salaire mensuel, en lieu et place des salaires à la tâche ou à la journée qui prévalaient au XIXe siècle, et la protection contre les licenciements abusifs, ce qui permet là encore un meilleur investissement à long terme des salariés dans l'entreprise, dans la quasi-totalité des pays développés, y compris en l'absence de représentation des salariés dans les conseils d'administration. Simplement, le fait d'obtenir de surcroît des sièges au sein des conseils d'administration constitue un canal supplémentaire d'influence. Ceci est particulièrement vrai dans une phase de déclin industriel et syndical et contribue à expliquer une plus grande résilience du modèle social et économique germanique et nordique depuis les années 1980 et 1990. Pour résumer, la cogestion est l'une des formes les plus élaborées et les plus durables dans laquelle s'institutionnalise à partir du milieu du XXe siècle le nouveau rapport de force travail-capital en construction dans le cadre de luttes syndicales, ouvrières et politiques menées depuis le milieu du XIXe siècle à l'issue d'un très long processus.